Laudetur Jesus Christus.
Le pape poursuit sa convalescence au Vatican. La salle de presse du Saint-Siège a donné quelques informations ce mardi, sans pour autant en dire plus sur un programme pour les semaines à venir. Nous y reviendrons en détail juste après ces titres. 3 ans après sa création, l'INIR, l'instance nationale de reconnaissance et de réparation pour les victimes d'agressions sexuelles dans l'Église de France, fait son bilan d'étape. Sa présidente nous rappellera la mission essentielle d'accompagner ces personnes. Dans ce journal également, le désarroi des familles d'otages en Israël, alors que la guerre a repris dans la bande de Gaza. Le président israélien se dit choqué ce mardi que leur sort ne soit plus une priorité. Et puis nous irons également au Soudan du Sud où 7 ans après la signature d'un accord de paix, Djouba est plus que jamais proche d'une nouvelle guerre civile. C'est la grande inquiétude soulevée par les Nations Unies.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. 2 jours après son retour à la résidence Sainte-Marthe au Vatican, après son hospitalisation à l'hôpital Gemelli, le pape François poursuit donc sa convalescence. Traitement pharmacologique et physiothérapie respiratoire et motrice, a précisé à la mi-journée la salle de presse du Saint-Siège. Pour le moment, le Saint-Père ne reçoit pas de visite, mais continue de se faire assister par une équipe médicale. Il privilégie aussi les messes et les moments de prière personnelle, Myriam Sandounou.
Oui, Olivier, pendant une longue période et par voie orale, le pape devra poursuivre la thérapie pharmacologique, mais aussi la physiothérapie motrice et respiratoire à plein temps, cette dernière en particulier, qui lui permettra de récupérer sa voix, ont expliqué ses médecins traitants. Il lui a été recommandé une assistance 24 heures sur 24 pour subvenir aux besoins et intervenir en cas d'urgence. Pour le moment, le pape devra éviter toute rencontre, tant individuelle que de groupe. En cette période de convalescence, rapporte la salle de presse du Saint-Siège, le Saint-Père poursuit son travail. Il a pu concélébrer la messe dans une chapelle à Sainte-Marthe. L'audience générale de demain n'aura pas lieu, mais le texte de la catéchèse préparé pour l'occasion sera rendu public. Et en ce qui concerne le programme des prochains jours lié aux différents jubilés prévus et à la Semaine Sainte, il n'y a pour le moment aucune indication précise. Après 38 jours d'hospitalisation en raison d'une pneumonie bilatérale, François est heureux de rentrer chez lui, notent les médecins.
Myriam Sandounou, le pape qui continue néanmoins de travailler, qui n'a pas cessé de le faire d'ailleurs durant son hospitalisation. Pour preuve, ce message écrit et signé depuis l'hôpital Gemelli, daté du 20 mars, mais publié ce mardi, adressé aux membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Ils sont réunis à Rome cette semaine pour leur assemblée plénière, et François les remercie pour leur précieux service. Il les encourage à faire grandir, je cite, le filet de sécurité dans l'église qu'ils construisent depuis une dizaine d'années. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. Les personnes victimes d'agressions sexuelles dans l'église, il en a été question ce mardi en France avec la publication du rapport annuel de l'INIR, l'instance nationale de reconnaissance et de réparation, une organisation créée fin 2021 suite au rapport de la CIAZ et dont la finalité est d'accompagner au mieux les victimes. En 3 ans, plus de 1200 personnes ont été soutenues par cette instance qui a pu permettre des réparations financières mais aussi les aider, par exemple, à renouer le dialogue avec l'église. Ce soutien de l'INIR reste essentiel pour sa présidente Marie Derain de Vaucressin.
Une personne victime qui est isolée, qui n'est pas considérée, qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas soutenue, est une personne victime dont la vie va être empêchée, dont l'équilibre de vie va se dégrader. Donc l'obligation qu'on a, c'est en fraternité, considérer les personnes victimes comme on considère les pauvres, ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, pour faire une référence évangélique. Et donc on ne peut pas être indifférent au sort des personnes victimes au nom de cette fraternité-là et au nom de se sentir concerné par quelqu'un qui va mal à côté de soi. Les considérer, c'est une chose, apporter des réponses, c'en est une autre. Et l'enjeu aujourd'hui, il est là. L'INIR a été une réponse de crise à une situation de crise révélée par la CIAZ. On voit bien que toutes les révélations actuellement en France montrent que le chemin à parcourir est encore long. On ne peut pas laisser les personnes victimes au bord du chemin. Il faut pouvoir apporter des réponses, et des réponses solides et durables. C'est tout l'enjeu de transformer l'activité de l'INIR.
Marie Derain de Vaucressin, présidente de l'INIR, interrogée par Jean-Benoît Harel. Dans l'actualité internationale, la Maison-Blanche annonce que la Russie et l'Ukraine vont cesser les hostilités en mer Noire. Le fruit de deux jours de discussions entre les États-Unis et les deux parties qui se sont tenues jusqu'à ce matin en Arabie Saoudite. Washington et Moscou sont ainsi convenus d'assurer la sécurité de la navigation, d'éliminer le recours à la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires en mer Noire, lit-on dans un communiqué. Les États-Unis qui s'engagent par ailleurs à aider les Russes à rétablir leur accès au marché mondial pour les exportations agricoles, dont la mer Noire est l'un des axes stratégiques. L'Ukraine mettra en œuvre ses accords, annonce le président Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui est attendu ce soir à Paris, où il sera reçu par Emmanuel Macron. Un dîner de travail est prévu pour préparer un nouveau sommet organisé demain par la France et qui a pour objectif la paix et la sécurité de l'Ukraine. Une vingtaine de pays de l'Union européenne et de l'OTAN ont été conviés. Plus de 21 000 personnes ont fui les massacres en Syrie vers le Liban voisin, selon les chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU et de la Croix-Rouge libanaise. Les exactions qui ont principalement visé la minorité alaouite sur la côte ouest syrienne ont fait près de 1 600 morts, principalement des civils. Dans la bande de Gaza, près de 800 personnes ont été tuées depuis la reprise des frappes israéliennes il y a tout juste une semaine. Les opérations terrestres de Tsahal qui se poursuivent par ailleurs dans l'enclave palestinienne. Israël, où le budget 2025 a été adopté ce mardi à la Knesset, le Parlement, et ce dans un climat électrique. Et alors que les manifestations contre le gouvernement se poursuivaient à l'extérieur, les familles de certains otages à Gaza sont entrées dans la salle plénière brandissant des photos de leurs proches. Le désarroi est grand pour les proches des otages qui se sentent sacrifiés. Le président israélien Isaac Herzog s'est même dit choqué que leur sort n'était plus une priorité. À Tel Aviv, les précisions de Sandy Fortis.
Après la diffusion d'une nouvelle vidéo de propagande du Hamas montrant deux otages israéliens, Elkana Bobot et Yosef Raïm Ohana, suppliant le gouvernement de les faire libérer, la colère et l'inquiétude des familles d'otages montent encore d'un cran. Les corps amaigris, le teint livide et la respiration essoufflée des deux otages ont bouleversé les familles qui appellent le gouvernement israélien mais aussi Donald Trump à agir au plus vite. Ouad Ben Ami, ancien otage libéré récemment qui a été interpellé par ses anciens codétenus dans la vidéo, a lui aussi réagi, affirmant qu'il ne cessera son combat que lorsque tous les otages rentreront à la maison. Le président israélien Yitzhak Herzog appelle lui aussi à agir, affirmant qu'il faut constamment être à l'écoute des familles qui vivent un enfer inimaginable. Il ajoute que le gouvernement doit absolument envisager un soutien pour les survivants de captivité. L'inquiétude des Israéliens pour les otages est d'autant plus forte que les négociations semblent piétiner. Après l'échec de la proposition Witkoff, l'Égypte affirme avoir l'aval du Hamas sur un nouvel accord. Israël répond cependant n'avoir reçu aucune proposition. Nouvelle confusion donc sur ces négociations, comme c'est souvent le cas depuis le début de cette guerre. Depuis Tel Aviv, Sandy Fortis pour Radio Vatican.
C'est une bonne nouvelle au Burundi. Le pays de la région des Grands Lacs vient d'introduire un vaccin antipaludéen. Le but est de réduire la mortalité liée au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Le Burundi qui est rejoint 17 autres pays africains qui ont déjà adopté un vaccin contre le paludisme, également appelé malaria. La maladie est présente dans 83 pays à travers le monde. 7 ans après la fin d'un premier conflit meurtrier qui a fait 400 000 victimes, le Soudan du Sud est de nouveau proche de la guerre civile selon les États-Unis. L'opposition sud-soudanaise a dénoncé aujourd'hui des frappes sur l'une de ses bases militaires près de Djouba, la correspondance régionale d'Augustine Passilly.
Une paix fragile régnait au Soudan du Sud depuis l'accord de 2018, censé tourner la page d'un conflit ayant éclaté au lendemain de l'indépendance de la plus jeune nation de la planète. Mais hier, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan du Sud, Nicolas Haysom, a déclaré que le pays est au bord d'une rechute dans le fléau de la guerre civile. En cause, les violences dans l'état du Nil supérieur, frontalier du Soudan et de l'Éthiopie. Elles opposent l'armée blanche, une milice de jeunes proches du premier vice-président Riek Machar, aux forces de défense du peuple du Soudan du Sud du président Salva Kiir. Les tensions amorcées mi-février se sont aggravées le 4 mars, lorsque l'armée blanche s'est emparée d'un camp militaire appartenant aux forces gouvernementales. Ces dernières ont répliqué avec des bombardements sans épargner les civils. Au moins 21 personnes ont été tuées la semaine dernière. Ces affrontements ont en outre jeté 63 000 individus sur les routes. Les efforts de la communauté internationale pour parvenir à une solution pacifique ne pourront aboutir que si les parties elles-mêmes sont disposées à s'engager et à faire passer les intérêts de leur peuple avant les leurs, prévient le représentant de l'ONU. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et le Soudan du Sud qui continue d'être oublié de la communauté internationale déplore l'évêque de Bentiu, l'évêque italien Mgr Christian Carlassare. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera bien entendu demain matin à 8h30 heure de Rome. Excellente soirée à tous.